Sermon 19. Demeurez avec Dieu selon le don que chacun a reçu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 40. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu tenu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé, étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pèche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement, que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Bien-aimés saints, aujourd'hui, à travers la parole de 1er Épître aux Corinthiens chapitre 7, nous allons examiner en profondeur quelle attitude de vie les saints sauvés devraient avoir sur cette terre. Ce chapitre parle du mariage et du célibat, ainsi que de la vie dans le monde, mais en son centre, il y a une norme claire. C'est exactement la vie vécue sur le fondement de l'évangile du salut déjà accompli. L'apôtre Paul parle d'abord du mariage et du célibat, reconnaissant l'état donné à chaque personne. Certaines personnes sont mariées et d'autres vivent célibataires. Paul n'établit ni l'un ni l'autre comme une norme absolue. Il dit plutôt « mais chacun tient de Dieu un don particulier ». C'est un principe très important. La foi n'est pas évaluée par des formes extérieures, mais elle est déterminée par l'état devant Dieu. S'il en est ainsi, pourquoi Paul traite-t-il la question du mariage de cette façon ? À cette époque, il y avait des pensées extrêmes au sein de l'église de Corinthe. Certaines personnes considérèrent la chair comme mauvaise et rejetèrent le mariage lui-même. Et inversement, d'autres pensaient qu'il était acceptable de suivre les désirs de la chair comme bon leur semblait. Ces deux attitudes sont des apparences qui se manifestent lorsque l'on ne connaît pas l'évangile avec précision. Si l'on ne connaît pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, une personne tombe inévitablement dans deux extrêmes. L'un est l'ascétisme légaliste et l'autre est la complaisance envers soi-même. Cependant, une personne qui connaît l'évangile de l'eau et de l'esprit ne vacille pas entre ces deux extrêmes, parce que sa norme ne se trouve pas dans ses propres œuvres, mais dans le salut déjà accompli par Jésus. Paul dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Cette parole ne signifie pas de ne pas changer, mais elle indique que le point de départ de la foi ne se trouve pas dans les circonstances. Que l'on soit marié, célibataire, esclave ou homme libre, ces conditions extérieures ne déterminent pas le salut, parce que le salut a déjà été achevé. S'il en est ainsi, comment ce salut a-t-il été accompli ? En recevant le baptême de Jean, Jésus s'est chargé de tous nos péchés, a été jugé sur la croix avec ses péchés, et a achevé le salut par sa résurrection. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Celui qui croit en cet évangile est déjà une personne parfaite devant Dieu, quel que soit l'état dans lequel il se trouve. Par conséquent, Paul applique la même norme aux personnes mariées et aux célibataires, c'est de vivre dans le Seigneur. La personne mariée sert le Seigneur au sein du mariage et le célibataire sert le Seigneur dans l'état de célibat. Ce qui est important, ce n'est pas l'état, mais vers qui l'on regarde au sein de cet état. De plus, Paul dit ceci, « Le temps est court, la figure de ce monde passe. » C'est une perspective très importante. Ce monde dans lequel nous vivons n'est pas éternel. Le mariage, la richesse et les circonstances finiront tous par passer. À cause de cela, si nous y plantons les racines de notre foi, nous vacillerons inévitablement. Bien-aimés saints, beaucoup de gens sont encore liés aux circonstances, même en menant une vie de foi. Ils vacillent au milieu des problèmes conjugaux, des problèmes économiques et des problèmes de relations humaines. Pourquoi en est-il ainsi ? C'est parce que le centre du salut n'est pas clair. Une personne qui croit pleinement en l'évangile de l'eau et de l'esprit est différente. Elle ne vacille pas, quel que soit son état. Parce que son salut a déjà été achevé, et sa relation avec Dieu a également déjà été parfaitement établie. Par conséquent, Paul dit « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes ». Cette parole ne parle pas simplement d'indépendance sociale. C'est une déclaration que notre identité n'est pas déterminée par les gens ou les circonstances. Parce que Jésus s'est chargé de nos péchés et a payé le prix, nous appartenons déjà au Seigneur. Maintenant, nos vies doivent changer. Ce ne doit plus être une vie tiraillée par les circonstances, mais une vie fondée sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que nous nous marions ou non, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, notre centre ne doit pas changer. Bien-aimés, 1er Épître aux Corinthiens chapitre 7 nous pose cette question. Où se trouve la norme de votre vie ? Si cette norme se trouve dans les circonstances ou les conditions, vous n'avez d'autre choix que de continuer à vaciller. Cependant, si cette norme repose sur le salut accompli par Jésus, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous ne vacillerez dans aucune situation. Maintenant, nous devons retourner à nouveau à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par le baptême qu'il a reçu de Jean, Jésus s'est chargé de tous nos péchés, a été jugé pour ses péchés sur la croix et a achevé le salut par sa résurrection. Cet évangile doit devenir la norme de nos vies. Lorsque nous faisons cela, nous devenons enfin libres. Nous devenons libres, même au sein du mariage, libres même dans le célibat, et nous en venons à mener une vie tournée vers Dieu en toutes circonstances. J'espère que cet évangile de l'eau et de l'esprit deviendra votre centre. Ainsi, j'espère que vous en viendrez à vivre avec une foi qui ne vacille dans aucune situation. Alléluia.